Chers amis, soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis Abanga Onana. Je bâtirai mon église. Tel est le thème de notre message d'aujourd'hui. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Loué soit l'Éternel pour la lecture de sa parole. Voici la première mention distincte de l'Église dans le Nouveau Testament. Donnée par son propriétaire Jésus qui en est le bâtisseur. Nous ne bâtissons pas l'Église par nous-mêmes ni pour nous-mêmes, mais en co-ouvrage avec le bâtisseur en chef, le maître et le propriétaire. D'abord, l'Église de Jésus-Christ n'est pas un édifice ou un bâtiment physique quelconque. Le langage utilisé dans les Écritures pour parler de l'Église ne peut jamais être appliqué à un bâtiment. Par exemple, le Seigneur ajoutait à l'Église. L'Église était persécutée. Paul saluait l'Église. L'Église qui est dans la maison d'eux. Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Personne ne peut s'adresser à un bâtiment en des termes suivants. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis dans Acte 2, au verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Voilà l'Église, le rassemblement des croyants dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. La maison n'est pas l'église, mais ce sont ceux qui y sont assis qui sont l'église de Jésus-Christ. Et puis Éphésiens 2, au verset 20 nous dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » L'Église de Jésus-Christ est une habitation de Dieu en esprit. Le mot « Église » vient de la traduction grecque du mot « Ecclesia », qui signifie une assemblée de personnes mises à part, appelées hors de la mêlée. Il implique, ce mot « Église », un rassemblement de personnes convoquées en un lieu quelconque et non le lieu lui-même. C'est ce qui se passait avec Israël qui fut une Église sous la conduite de Moïse. Acte 7, verset 38. Parce que appelés hors de l'Égypte et assemblés au désert par le même Dieu qui appellera l'Église de Jésus-Christ hors du monde. Nous sommes dans le monde, mais sans être du monde. Et pour cela, le monde ne pourrait jamais être appelé l'Église de Jésus-Christ. C'est ce qui se passe à Éphèse quand les adorateurs de Diane se liguèrent contre l'Église et non contre un bâtiment ou un lieu. Acte 19, verset 40 à 41. L'Église de Jésus est spirituelle et invisible. Et de nos jours, personne ne pourrait la regrouper dans un seul lieu physique. Parmi elles se trouvent nos frères et sœurs déjà décédés, tels que Jean, Pierre, Paul, Marie, mère de Jésus, Étienne, Nicodème, mais qui ne peuvent plus physiquement se réunir avec nous aujourd'hui. Ce n'est qu'au moment de l'enlèvement de son Église, l'Église de Jésus-Christ, qui aura bientôt lieu, que nous connaîtrons le nombre exact de ses membres décédés et vivants, réunis enfin au même endroit dans les airs avec leur Seigneur et Maître Jésus-Christ. Il n'y a que dans la tradition des hommes et selon la mentalité religieuse que les hommes disent qu'ils vont à l'église. J'ai passé la nuit seul dans l'église, s'agissant d'un bâtiment, même s'il est vide. La bonne expression serait « je vais » ou « nous allons au temple, au lieu de culte, au lieu de réunion, au lieu de rassemblement, à la maison de prière, à la maison de Dieu. » Ce lieu où les chrétiens se réunissent, ce lieu où l'église se tient, peut être aux heures œuvrées, un magasin, une salle de classe, un hangar, la maison d'un croyant, sa véranda, son salon, sa cuisine et même sa chambre à coucher. Romains 16, à partir du verset 3, nous dit « Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. » Nous appelons cela les églises de maison. Il y en avait plusieurs dans la Bible. Le diable est tourmenté par les églises de maison parce qu'il ne peut pas facilement les contrôler. Mes chers amis, fossoyeurs de l'église de Jésus-Christ, sachez que chaque membre d'une famille chrétienne est déjà un pasteur et sa maison est une église composée de lui, de sa femme et de leurs enfants et de tous ceux qui habitent dans leur maison. Comment pouvons-nous demander des autorisations pour constituer des églises de maison dont le père est le pasteur et sa femme et ses enfants et les membres de sa famille sont les chrétiens de cette assemblée? Le maître Jésus, que personne ne peut contredire, dit « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, là où, n'importe où, il s'agit là d'une église. » Les Camerounais doivent-ils demander des autorisations partout où ils se réunissent à deux ou à trois pour chanter pour lui et pour prêcher Jésus? En tant que chrétiens, nous sommes soumis aux autorités établies, mais selon les lois de la République qui réglementent tout pour qu'il n'y ait pas de désordre et pour que la liberté de chacun d'entre nous se termine là où commence celle de l'autre. Ceci sans aucune discrimination religieuse. 1 Corinthiens 1 à partir du verset 1 nous dit « Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. » Nous entendons bien. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Ce lieu où nous invoquons le nom de Jésus pourra même être dans les champs, dans les cavernes et les rochers, dans les latrines, dans les cimetières, pourquoi pas si c'est là que nous sommes retranchés, et même dans des caves souterraines, s'agissant des pays où l'église de Christ est persécutée. Dans Actes 8, à partir du verset 1, nous lisons « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Une église locale est une assemblée de croyants qui croient et qui professent leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ et qui vivent pour la plupart dans le même quartier ou dans la même cité. Ils se rencontrent régulièrement au nom de leur Seigneur pour adorer, pour prier, pour louer Dieu, pour jouir de la communion fraternelle, pour témoigner, pour participer au ministère de la parole, à l'enseignement, pour célébrer les baptêmes et la Sainte Cène, et pour le progrès de l'évangile de Jésus-Christ en vue de la réalisation de la grande commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pour le faire, nous n'avons plus besoin d'une autorisation humaine. Mais, une fois de plus, nous nous soumettons à la réglementation parce que la Bible nous dit que nous devons être soumis à toute autorité établie selon les lois de la République qui elles-mêmes ne sont pas contraires à la loi de Dieu. Dans ce cas, Dieu dit « Mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes ». Les plus grands ennemis de l'Église de Jésus-Christ sont Satan et son associé qui est le monde et son système. Ce sont eux que l'Église dérange, tourmente et gêne avec ses bruits et ses méthodes non conventionnelles. Ensuite, l'Église de Jésus-Christ n'est pas une dénomination, mais elle est composée d'un ensemble de dénominations. Les dénominations sont en principe contraires aux Écritures et elles sont le plus souvent nourries par la chair et par les divisions. Les dénominations sont le plus souvent créées autour d'une forme nouvelle de gouvernement d'Église, autour d'une emphase doctrinale ou de la vérité. La tragédie est que chaque réveil de la vérité trouve ses ennemis dans les précédents groupes qui avaient reçu la lumière du ciel, mais qui se sont arrêtés, affaiblis ou fait naufrage quelque part sur le chemin. L'histoire se répète elle-même à chaque génération. Faisons donc attention de ne pas nous mordre et nous neutraliser les uns les autres au profit de l'ennemi. Parce qu'il n'y a qu'une seule église que Jésus bâtit, et son message ne change pas, quelles que soient les différentes dénominations, congrégations, paroisses ou branches qui peuvent être éparpillées dans le monde entier. Ensuite, l'Église de Jésus-Christ n'était pas une solution de secours ou de remplacement dans la pensée de Dieu. Oui, l'Église ne fut pas instituée pour remplacer la nation juive après qu'elle ait rejeté Christ. mais elle fut prophétisée tout au long de l'Ancien Testament. L'Église de Jésus-Christ ne remplace pas Israël, mais elle est une entité à part. Toutes les nations de la terre devaient être bénies par la postérité d'Abraham. C'est ce que Genèse 12, du verset 1 au verset 3, annonçait déjà longtemps avant que Jésus-Christ ne bâtisse son Église, comme il le fait depuis sa mort et sa résurrection. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pas seulement les Juifs, mais toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Galates 3, verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes bénis en tant que postérité d'Abraham le béni par Jésus-Christ. Ensuite, l'Église est la pièce centrale du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est plus large que l'Église de Jésus-Christ parce qu'il inclut plus que l'Église. Il inclut tout l'univers, les anges célestes, tous les saints de l'Ancien Testament et tous les juifs non membres de l'Église, les 144 000 qui seront sauvés par élection et entreront vivants dans le millénium. L'Église du Nouveau Testament est la pièce maîtresse du royaume de Dieu et sa partie la plus importante. Parce que dans Matthieu 19 au verset 28, nous lisons « Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Ce ne sont pas les 12 tribus d'Israël qui jugeront l'Église, parce que l'Église est l'épouse de Christ, le corps de Christ. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut juger son épouse. Mais le corps de Christ, son épouse, jugera les 12 tribus d'Israël. Et dans Matthieu 13, à partir du verset 16, nous lisons ceci. « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Jésus s'adresse à son Église qu'il est encore en train de bâtir. Et dans 1 Pierre 1, à partir du verset 10, Pierre, membre de l'Église de Jésus, enfonce le clou. « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. » Que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges même désirent plonger leur regard. Là aussi, c'est l'Église de Jésus-Christ qui jugera les anges. Moïse aurait aimé voir et participer au sacerdoce royal dans 1 Pierre 2 qui nous dit « Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal s'agissant de l'Église, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Parce que le même Moïse avait raté d'être un sacerdoce royal avec le peuple juif, il avait raté d'être une nation sainte, un peuple acquis, parce qu'il n'avait pas pu mettre la loi en pratique. Exode 19, versets 5 à 6. Maintenant, l'Église devient un sacerdoce royal par droit de naissance, sans avoir obéi à la loi, mais parce que Jésus-Christ a obéi à la loi à sa place. Ésaïe aurait aimé voir la Pentecôte afin d'expérimenter lui-même le parler en langue qu'il avait prophétisé 700 ans avant, dans Ésaïe 28, à partir du verset 10, où nous lisons « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. » Joël aurait tout fait pour se retrouver dans la chambre haute afin d'expérimenter sa prophétie de son chapitre 2 du verset 28 au verset 29 de son livre, acte 1, verset 3. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Ensuite, l'Église est la seule chose que Dieu a dû acheter, alors que tout lui appartient. Il est le Créateur de toutes choses. En dehors de son Église, constituée par les âmes sauvées par grâce par le moyen de la foi en Jésus-Christ, toutes autres choses ont été créées par la seule volonté de Dieu. Mais l'Église lui coûta très cher. Dans Matthieu 13, à partir du verset 45, nous lisons « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherchait de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » La perle de grand prix ici parle de l'Église de Jésus-Christ. Acte 20, verset 28, l'apôtre Paul, disant au revoir à l'Église, nous révèle ceci. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est par son propre sang que Dieu s'est acquis l'Église. La même chose ne l'est pas de tout l'univers, y compris ses propres anges. Et ceci est bien expliqué dans Ésaïe 53, à partir du verset 3, parlant de Jésus. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ en personne qui parle. Si le grain de blé, parlant de lui-même, qui est tombé en terre, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Oh, la multitude de fruits ici, là, c'est vous et moi qui avons cru en Jésus-Christ et qui sommes nés de Dieu en lui, par lui et pour lui. 1 Pierre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et Jean 15, au verset 13, conclut. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'Église est constituée des amis du Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Il s'agit du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu d'Israël, le Seigneur Jésus-Christ en personne. Ensuite, l'Église est la seule chose qui ne peut pas être ébranlée ou renversée. Les saints prient individuellement et les assemblées locales peuvent avoir des problèmes. Mais l'Église elle-même est aussi solide que le roc de la révélation sur laquelle elle est établie. Toute la création sera ébranlée et passera, mais seule l'Église de Jésus-Christ, son corps et son épouse, demeurent éternellement. La nation d'Israël sera ébranlée. Ézéchiel 38, verset 19 à 20, nous le dit. Les cieux et la terre seront ébranlés et passeront. Agé 2, à partir du verset 26, nous le dit en ces termes. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Agé 2, à partir du verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Le monde et son système seront ébranlés et passeront avec fracas parce que les portes de l'enfer prévaudront contre eux. Mais l'Église de Jésus-Christ, son corps et son épouse demeurent éternellement. Le monde et son système qui ne sont pas bâtis par le Seigneur Jésus-Christ en personne seront ébranlés et passeront avec fracas parce que les portes de l'enfer prévaudront contre eux. Mais l'Église de Jésus-Christ, son corps et son épouse demeurent éternellement. Tous les gouvernements de la terre, les institutions et les organisations humaines, parce que non bâties par le Seigneur Jésus-Christ, seront ébranlés et passeront avec fracas, parce que les portes de l'enfer prévaudront contre eux. Mais l'Église de Jésus-Christ, son corps et son épouse demeurent éternellement. Les Nations Unies, l'OTAN, les G20 jusqu'au G666 seront ébranlés parce que non bâtis par le Seigneur Jésus-Christ en personne et passeront parce que les portes de l'enfer prévaudront contre eux. Mais l'Église de Jésus-Christ, son corps et son épouse demeurent éternellement. La Banque mondiale, la Cour internationale de justice, sans Jésus-Christ, la justice de Dieu est notre justice. Les prix Nobel de la paix partisans, sans Jésus-Christ, le prince de la paix, parce que non bâtis par le Seigneur Jésus-Christ, seront ébranlés et passeront avec fracas, parce que les portes de l'enfer prévaudront contre eux. Mais l'Église de Jésus-Christ, son corps et son épouse demeurent éternellement. Le nouvel ordre économique mondial et ses initiateurs, parce que non bâtis par le Seigneur Jésus-Christ, seront ébranlés et passeront avec fracas, parce que les portes de l'enfer prévaudront contre eux. Mais l'Église de Jésus-Christ, son corps et son épouse demeurent éternellement. L'homosexualité, les cercles ésotériques, les loges sataniques, parce que non bâtis par le Seigneur Jésus-Christ, seront ébranlés et passeront avec fracas, parce que les portes de l'enfer prévaudront contre eux. Mais l'Église de Jésus-Christ, son corps et son épouse demeurent éternellement. Les activistes zélés et malins qui s'activent à fermer la bouche de l'Église de Christ parce que non bâtis par le Seigneur Jésus-Christ en personne sont ébranlés et passeront parce que les portes de l'enfer prévaudront contre eux. Mais l'Église de Jésus-Christ, son corps et son épouse demeurent éternellement. Toutes les autres voix antichrist des médias séculiers, des associations religieuses, des membres des cercles ésotériques et dignitaires religieux, de la communauté dite internationale, parce que non bâtis par le Seigneur Jésus-Christ, seront bientôt ébranlés par les portes de l'enfer. Et rien que la voix de l'Église que personne ne pourra plus étouffer sera entendue. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Habacuc 2, verset 14. Tout ce qui n'est pas en Christ sera ébranlé et passera. Hébreux 12, à partir du verset 26, nous dit: lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Alléluia. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le monde ne le sait pas, le monde ne le croit pas. C'est pour cela que le monde dit qu'il n'y a point de Dieu. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Voilà la devise du monde. Mais l'Église de Jésus-Christ ne peut être ébranlée. Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle, parce que Jésus-Christ est celui qui en personne l'a bâti. Matthieu 16, à partir du verset 18. Et je te le dis, tu es Petros, un nom masculin, un gros morceau de roc. Et sur cette Petra, il s'agit maintenant d'un nom féminin qui signifie un énorme rocher, le rocher des siècles, qui ne peut être que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il dit donc, sur cette Petra, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer, c'est-à-dire les puissances infernales des régions inférieures, ne prévaudront point contre elles. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. C'est-à-dire que tout ce que tu déclareras impropre et illégal le sera. Et tout ce que tu déclareras légal le sera aussi. Nous notons trois principes très importants dans ce passage que nous venons de relire. En premier, l'Église de Jésus-Christ est bâtie sur un message. Il s'agit de Jésus, le rocher des siècles, stable et immense, qui sans aucun secours remplira bientôt toute la terre, d'après Daniel 2, du verset 34 au verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Le ciel et la terre passeront, mais le rocher des siècles ne passera point. L'Église de Jésus-Christ est bâtie sur le message, sur la révélation de Jésus-Christ et non sur un homme. Le nom Simon signifie un roseau agité par le vent et instable. Les hommes viennent et passent, réussissent ou échouent, mais c'est la révélation véritable de Jésus-Christ qui est la fondation de son Église. Simon Pierre répondit : tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà la révélation sur laquelle est bâtie l'Église de Jésus-Christ. Le premier principe est donc centré sur la parole de Dieu et sur la nature du support qui la porte. Dans Actes 2, à partir du verset 41, nous lisons « Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. » Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Voilà l'Église de Jésus qui est en train d'être bâtie. Elle est donc bâtie sur quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il s'agit donc du fameux faire et enseigner du Seigneur dans Actes 1, verset 1. C'est-à-dire que le ministère de Jésus-Christ consistait donc à accomplir d'abord et à enseigner ensuite la parole, sa doctrine. Il ne faisait pas seulement les miracles pour les faire, mais il les utilisait pour enseigner sa doctrine. Quand il guérissait un aveugle, il enseignait « Je suis la lumière du monde ». Quand il guérissait le paralytique que ses amis avaient fait entrer par le toit, il profitait pour enseigner dans Marc 2, versets 5 à 10, « Si le Fils de l'homme peut faire le plus difficile qui consiste à faire marcher un paralytique, alors sachez qu'il a aussi le pouvoir de pardonner les péchés. » 3. Quand il ressuscitait un mort, il enseignait « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Quand il nourrissait 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants, il enseignait « Je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. » Quand il intervenait puissamment dans une vie, c'était pour annoncer l'essentiel aux concernés. « Va et ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. » Quand Jean-Baptiste était envahi par le doute à cause des tribulations qu'il connaissait, Jésus, pour le fortifier dans la foi, envoya lui dire « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Dans Jean 14 au verset 11, il nous dit « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de ces œuvres que je fais. » 6. Et puis, Jésus n'enseignait pas comme les scribes, sans aucune autorité. Matthieu 7, verset 29. Mais il enseignait avec autorité. De même, vous et moi devons d'abord recevoir l'autorité et le pouvoir qu'il nous donne sur tous les démons afin de triompher du monde et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, ceci en recevant la puissance d'en haut. Faire des miracles sans enseigner est une erreur monumentale. C'est ce qui conduit plusieurs dans l'apostasie et de délivrance en délivrance, parce que leurs délivrances sont fondées sur la foi, la connaissance et l'onction des autres, parce qu'eux-mêmes n'en ont pas. 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Enseigner sans nous-mêmes mettre en pratique est suicidaire, parce que Dieu nous rend responsables de ce que nous faisons de la connaissance que nous avons. Ôtons premièrement la poutre de nos yeux avant de chercher à l'ôter des yeux des autres. Et chaque enfonce le clou en disant, dans son chapitre 4 et au verset 17, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Et toujours Jacques, dans son chapitre 1, à partir du verset 22, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Thank you. Je suis à Banga Onana. Je bâtirai mon église. Tel est le thème de notre message d'aujourd'hui. 2. Nous devons bâtir l'église selon le modèle de Dieu si nous avons sa pensée et ses bénédictions. Matthieu 18, verset 18 nous dit: Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ici, le Seigneur s'adresse à tous ses disciples, c'est-à-dire à vous et à moi, si nous sommes nés de nouveau. Il ne s'adresse pas seulement à Pierre. Nous ne bâtissons pas l'église en couvrage avec Jésus comme nous le voulons, mais comme il le veut. Quand un entrepreneur construit une maison pour quelqu'un, il doit demeurer dans le modèle du propriétaire. Si nous voulons bâtir une église, nous devons demeurer dans le modèle de Dieu, c'est-à-dire sa parole, la Bible. Sinon, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ que nous bâtissons, et ce n'est pas avec lui que nous bâtissons, mais avec la chair, le monde et le diable. Exode 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. C'est Dieu qui parle à Moïse, le bâtisseur. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, malgré qu'il soit rejeté par ceux qui bâtissent, demeure la pierre principale de l'angle. Le mot apôtre signifie envoyé. Je dirais même plus, un envoyé spécial de Jésus-Christ dans le cadre de la grande commission. C'est pour cela que le Seigneur accorde des dons ministériels à qui il veut, sans distinction de race, de sexe ou de rang social. Éphésiens 4, à partir du verset 11, nous dit: Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous précisons qu'il n'a pas dit qu'il a donné certains hommes comme apôtres, d'autres hommes comme prophètes, d'autres encore comme évangélistes, et enfin une autre catégorie d'hommes comme pasteurs et docteurs. Mais il dit qu'il a donné les uns, sans discrimination de genre. Savons-nous que c'était une bande de femmes, avec à leur tête Marie de Magdala, sans aucun barbu parmi elles, qui avaient été les premiers apôtres de la dispensation de l'Église, parce que ce sont les premières qui avaient expérimenté, cru et qui avaient été envoyées pour prêcher Christ crucifié et ressuscité des morts. Aux autres apôtres titrés et religieux qui étaient les barbus, dans Jean chapitre 20 au verset 16, nous lisons ceci. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu Jésus et qu'il lui avait dit ces choses. Voilà son apostolat et son ministère d'évangélisation et d'enseignement que cette femme et les autres femmes qui l'accompagnaient mettaient en pratique. Et puis, nous tirons l'attention que aucun apôtre femme n'a jamais vendu Jésus, n'a jamais volé comme Judas Iscariote l'argent de l'église. Aucun apôtre femme n'a jamais été exposé par Jésus. C'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon, Judas. Aucun apôtre femme n'a revendiqué les titres, les premières places. Moi, je voudrais être assis à ta droite, moi à ta gauche. Oh Seigneur, fais-le. C'est cette bande de femmes ayant à leur tête Marie de Magdala qui furent les premières évangélistes du Nouveau Testament, c'est-à-dire après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 14, nous dit: Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Verset 17: Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Sans ces femmes apôtres, évangélistes et docteurs de Jésus-Christ, les ministres et les grands apôtres hommes seraient morts sans Christ et perdus pour toujours, parce qu'ils ne croyaient pas encore à Christ crucifié et ressuscité des morts, que ces femmes, les vrais apôtres, évangélistes et enseignantes de Jésus-Christ, leur prêchaient et leur enseignaient. Luc 24, verset 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze. Quel enseignement exhaustif! Ces mêmes femmes parlaient comme l'apôtre Paul quand il disait au revoir aux évêques. Il leur disait que je vous ai enseigné tout le conseil de Christ sans rien cacher. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils, les apôtres, les archevêques, les grands révérends titrés et barbus, tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Voici les grands révérends déjà titrés qui tiennent la parole de Dieu qu'on leur prêche pour des rêveries. Et ils ne crurent pas ces femmes. Heureusement qu'elles étaient persévérantes. Elles ne baissaient pas les bras jusqu'à ce que nos apôtres barbus et titrés croient et se convertissent. Marie de Magdala ne baissait pas les bras, mais elle continua dans l'enseignement pour les persuader. Et cela marcha enfin. Marc 16, à partir du verset 9, nous dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, à laquelle il avait chassé sept démons. Certains diraient peut-être que Jésus a fait une erreur. Pourquoi apparaître à une femme alors qu'il avait déjà nommé 12 apôtres, 12 souverains pontifes, officiels, titrés et inefficaces? Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne crurent point. Chers amis, quand nous excluons du ministère les femmes que Jésus a pourtant choisies et envoyées, nous ne bâtissons pas en co-ouvrage avec lui son église. Et plusieurs révérends apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes et enseignants hommes meurent ainsi dans l'œuf, alors que, comme pour Jérémie, avant sa naissance physique, Jésus les a déjà consacrés apôtres et prophètes des nations avant leur nouvelle naissance, avant leur naissance spirituelle. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Et j'ajoute, quel que soit son sexe, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Marie de Magdala et les autres femmes étaient-elles ouvrières avec Dieu, oui ou non? Moi je dis oui, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. C'est Paul qui parle. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Quand nous prêchons Christ crucifié et ressuscité des morts, comme Marie de Magdala et les femmes l'avaient prêché, Dieu étend sa main, il se fait des prodiges, des miracles et des guérisons. C'est pour cela que le Seigneur était apparu après à Thomas et aux autres. Et Thomas crut aussi que Jésus-Christ est vraiment ressuscité, comme Marie de Magdala et les autres femmes l'avaient prêché. Personne ne peut changer la révélation de la parole qui est le fondement sur lequel Jésus bâtit son église. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je paraphrase, heureux ceux qui croient à ce que mon apôtre, mon évangéliste et mon enseignante, Marie de Magdala que j'ai envoyée, est venue vous prêcher. Heureux ceux qui croient en ces paroles sans avoir vu. Même Pierre et Jean n'avaient pas cru à la parole. Il fallait d'abord qu'ils foncent dans le tombeau pour vérifier que le tombeau est vide. Heureux à toi Pierre, à Jean et aux autres. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Depuis le 18 octobre 1989, j'ai cru au message de l'apôtre, de l'évangéliste, de l'enseignante Marie de Magdala et des autres femmes sans avoir vu. Si la prédication, l'apostolat et tous les dons ministériels de ces femmes étaient inadmissibles, alors les 12 ne sont pas encore justifiés parce qu'ils ont cru à l'apostolat, à la prédication et aux enseignements des femmes. Si de nos jours l'Église est le fondement des apôtres, il s'agit d'abord du fondement des apôtres femmes, les premières à prêcher sans douter Christ crucifié et ressuscité des morts aux hommes et à tous. Et puis, si les femmes ne devaient pas prêcher, qu'est-ce que Jésus-Christ avait donc envoyé Marie de Magdala faire auprès des apôtres barbus, si ce n'était de prêcher et d'enseigner qu'il est ressuscité et qu'il est vivant pour toujours et qu'il va les rencontrer en Galilée? Cela ne s'était-il pas réalisé parce que c'est une femme qui avait prêché cela et annoncé cela? Et puis, les mots prophétiser et prêcher signifient la même chose. Les quatre filles de Philippe prophétisaient dans l'église en présence de l'apôtre Paul, sans qu'il leur dise qu'il est interdit aux femmes de prêcher dans l'église et en présence des hommes. Acte 21, versets 8 à 9. Mais Paul leur enseignait dans leur contexte géographique de l'époque que quand une femme prie, prophétise ou prêche, qu'elle se couvre la tête pour montrer qu'elle est sous l'autorité de son mari et qu'elle l'honore, afin qu'elle ne soit pas comme celle des femmes nouvelles converties pour la plupart qui prenaient l'autorité sur leur mari même dans l'église. Et ceci en soulevant devant tous des problèmes que même les femmes âgées, les anciens et les pasteurs dans l'église n'avaient pas le droit de traiter, mais seuls les époux des femmes concernées. Par exemple, ces femmes soulevaient et enseignaient des sujets tels que combien d'enfants une femme doit avoir avec son mari, combien de fois une épouse doit avoir des relations sexuelles avec son mari chaque jour ou chaque semaine, quel genre de plat une femme doit faire pour que son mari soit satisfait, comment une femme doit-elle s'habiller pour plaire à son mari. Voilà certains sujets que certaines femmes, apprenant toujours mais sans arriver à la connaissance de la vérité, voulaient imposer aux hommes, même dans l'église. Et ceci se passait dans le contexte de la ville d'Éphèse, où tout le monde adorait Diane, un dieu féminin ou encore une déesse, qui faisait que les hommes y étaient pratiquement sous la domination féminine à cause de l'adoration qu'ils rendaient à cette reine du ciel. Ceci devait s'arrêter avec l'avènement de l'église, qui devait maintenant prêcher le message de la vérité qui est contre Diane. À Éphèse, le genre féminin dominait sur le genre masculin. Ce sont les femmes habitées par cet esprit Diane qui prenaient naturellement, logiquement et spirituellement l'autorité sur les hommes et qui enseignaient les hommes et surtout leurs époux. Mais une fois dans l'église, Paul devait leur enseigner la vérité pour qu'il y ait de l'ordre. Et c'est pour ça que nous lisons dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 31, « Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Vous entendez sans exception. Que les femmes se taisent dans l'assemblée. Il s'agit de se taire concernant ces problèmes circonstanciels, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises, selon que nous dit aussi la loi, soumises à leurs époux. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Il s'agit de parler de ses problèmes spécifiques concernant elles et la vie privée dans leur foyer avec leurs époux. Qu'elles interrogent leur mari à la maison. Elles n'ont même pas le droit pour ce même problème d'interroger même leur pasteur, même les femmes âgées dans l'église, mais qu'elles interrogent leur mari. Ça, c'est personnel, c'est individuel. Même le pasteur de l'église est disqualifié pour donner des réponses à ce genre de questions que les femmes soulevaient dans l'église, créant le désordre et se disputant avec leur mari en pleine église. Donc il s'agissait de sujets personnels entre un homme et sa femme. Et dans 1 Timothée 2, à partir du verset 11, Paul enfonce le clou en disant que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. C'était circonstanciel. Ici, là, Paul n'interdit pas à la femme de prendre l'autorité sur tous les hommes. Moi, je suis chrétien, je peux travailler dans une entreprise et avoir une femme comme mon chef de service ou ma directrice. À l'école, moi j'ai eu des femmes qui m'ont enseigné à l'école primaire, au collège et à l'université. Ah oui, il y a des femmes mères. Si c'est une femme qui est mon maire ou mon sous-préfet ou mon ministre, est-ce que ce serait un péché que cette femme-là prenne l'autorité sur moi? Non. Est-il un péché qu'une femme soit mon premier ministre ou mon président de la République? Non. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme et non sur les hommes. Il s'agit ici d'un homme spécifique. Je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité sur son mari. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Voilà le genre de femme que nous élevons dans l'église. Il faut qu'elle soit modeste dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Ce genre-là ne sont pas différentes d'Abanga Onana. En Jésus-Christ, il n'y a plus de différence entre hommes et femmes. Que les femmes se taisent doit être compris dans le contexte traitée dans ces passages lus. Sinon, toutes les églises où les femmes chantent, lisent la Bible à haute voix, disent Amen, traduisent l'orateur, rendent témoignage publiquement, prient à haute voix, seraient des églises apostates et antichristes. Mais ce n'est pas ça que Jésus nous ordonne. Quand il nous dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Quand Marie de Magdala et les autres femmes allaient prêcher l'évangile à Pierre et aux autres apôtres barbus, ils étaient en pleine assemblée chrétienne. Ils n'allaient pas les chercher dans les maisons un à un, dans la cuisine de sa femme pour le leur dire. C'était en pleine assemblée. Soyons les témoins de Jésus. Prêchons son évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, en attendant que Dieu seul fasse croître. Acte 1, à partir du verset 7. Jésus leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dieu a pour vous et pour moi, dans son agenda, deux catégories de temps. Le temps chrono, qui signifie temps régi ou gouverné par la montre et par la rotation de la terre autour du soleil et sur elle-même, c'est le temps en quantité. Et ensuite, il y a le temps kairos qui signifie temps mesuré par les moments spéciaux. C'est le temps de qualité, temps où les rémas s'accomplissent dans nos vies et dans le monde entier. Le secret dans la vie du maître est que nous devons prendre avantage du temps kairos quand il se présente, sinon nous le perdons pour toujours. C'est pour cela que Jésus avait dit à la maison d'Israël qu'il n'avait pas la qualité des fils d'Issacar. Dans Matthieu 23 au verset 37, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Chers amis qui m'écoutez, les jours sont mauvais, très mauvais même. Conduisons-nous donc comme des sages et rachetons le temps d'après Éphésiens 5, versets 15 à 16. Parce que celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Galates 6, à partir du verset 8. Et enfin, troisièmement, élevez-vous au-dessus de la mêlée et allez au-delà. Acte 1, verset 23. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsaba, surnommé Justus, et Matthias. Puis, ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désire lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. De nos jours, nous croyons souvent que l'Église constituée des 12 et tous les autres qui suivaient Jésus avant sa mort et sa résurrection et ensuite constituée de tous ceux qui le suivaient après sa mort et sa résurrection et après la Pentecôte, était plus spirituel que nous le sommes aujourd'hui. Mais le livre des Actes et des Épîtres nous montre qu'ils avaient aussi plein de problèmes, de contretemps et des revers. En dehors de la crucifixion de Jésus-Christ, nous croyons probablement que rares sont les situations difficiles que les disciples ont eu à gérer et à surpasser que la rétrograde et la trahison de Judas. Judas avait été ordonné apôtre, ordonné pour prêcher l'évangile. Il avait reçu l'autorité sur tous les démons et la puissance de guérir les maladies. Mais malgré cela, il rétrograda, volait les offrandes et les dîmes, et il trahit et vendit le Seigneur pour 30 pièces d'argent. C'est de lui que le Seigneur parlait à ses 12 disciples quand il leur disait, « C'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. » Jean 6, verset 70. Quel contretemps et quel revers pour l'Église en ce temps-là. Mais nous voyons que les vrais disciples n'avaient pas abandonné et ne s'étaient pas découragés. Plutôt, ils avaient résolu de s'élever au-dessus de leurs peines, de leurs difficultés spirituelles, émotionnelles et même physiques, d'aller de l'avant pour embrasser leur futur en Dieu. Paul dit dans Philippiens 3 au verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et dans 1 Corinthiens 9 au verset 26, ce même Paul continue en déclarant solennellement et de tout son cœur par la puissance du Saint-Esprit. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après d'avoir prêché aux autres. Chers amis, le Seigneur Jésus-Christ bâtit son Église et tous ceux parmi nous qu'il choisit en tant que co-ouvriers pour bâtir cette Église avec lui, nous devons d'abord nous assurer, nous sommes des pierres principales de l'angle comme il l'est. Nous devons nous assurer que nous sommes un avec lui. Nous devons nous assurer que nous marchons comme lui-même il a marché et que nous sommes mutuellement en communion avec lui. Dans Galates 2, à partir du verset 11, Paul nous dit ceci. « Mais lorsque Céphas, Simon-Pierre, vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elle fut revenue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la lumière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Nous voyons que même l'église primitive avait des dissensions, ils avaient des problèmes, des malentendus et ils avaient des controverses à régler. Dans Actes 15, à partir du verset 1, nous lisons « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Les conciles n'ont pas commencé aujourd'hui. Acte 15, à partir du verset 36. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Chers amis, si nous aimons Dieu et que nous sommes appelés selon ses desseins, nos erreurs ne sont point fatales tant que nous demeurons en lui. Parce que les épreuves, les tentations viendront sûrement. Le Seigneur ne nous a pas caché cela. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Nous lisons Michée 7 au verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ami, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Lui qui me disait, où est l'Éternel, ton Dieu? Mes yeux se réjouiront, l'ennemi sera foulé aux pieds comme la boue des rues. Chers amis, il n'y a qu'en Jésus-Christ que nous avons l'assurance. Parce que Dieu nous a suscité un puissant sauveur en Jésus-Christ. Il n'y a que lui seul qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et pendant que nous bâtissons son église avec lui, si nous avons vraiment cru en lui et si nous demeurons dans sa parole, n'oublions jamais que par une seule offrande, il nous a déjà sanctifiés et amenés à la perfection une fois pour toutes. C'est le même évangile que nous devons prêcher aux autres pour les amener à croire de tout leur cœur à Christ crucifié et ressuscité des morts et de faire de lui le seul Seigneur et le seul Sauveur de leur vie. Et ainsi, nous les présenterons aussi à Dieu comme des hommes et des femmes devenus parfaits. Oui, Abraham, Moïse, Joseph, David, Daniel, Pierre, Paul, Jean avaient mis la main à la charrue et n'ont pas regardé en arrière. Et grâce à eux, l'évangile pur et authentique de Jésus-Christ est arrivé jusqu'à vous et à moi. De même, vous et moi aussi, nous devons mettre la main à la charrue, comme eux, dans nos appels et ministères respectifs. Alors, ne regardons pas en arrière, parce que Jésus-Christ bâtit son Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Nous terminons ce message en nous appuyant sur Jacques 1 au verset 2 qui nous dit que nous devons regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous faisons face. Mais une seule chose, dans toutes les épreuves que traverse un enfant de Dieu, il sort ragaillardi et le Seigneur est davantage glorifié dans sa vie. Je bâtirai mon Église. Tel est le thème de ce message que nous clôturons en vous invitant à vous joindre à la grande famille de Christ. Car tout est accompli. Mort crucifié, Jésus-Christ a vaincu la mort en ressuscitant le troisième jour. Il est venu chercher et sauver tous ceux qui sont perdus. Tel Christ est, tel nous devons être dans ce monde. Si vous le voulez, quel que soit l'endroit où vous êtes, baissez vos têtes et priez avec moi. Dites, Père Céleste, je te rends grâce pour ce message à travers lequel tu viens de me saisir. De tout mon cœur, je crois que tu as ressuscité Jésus-Christ des morts. À partir de ce moment, de tout mon cœur et par ma bouche, je confesse solennellement que Jésus-Christ seul est désormais mon seul sauveur et mon seul Seigneur. Père Céleste, je te rends infiniment grâce parce que ton Église vient de s'enrichir de nouveaux membres. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. En attendant que l'Église soit enfin rassemblée avec lui dans les airs, que Dieu vous bénisse et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Draw me close to you.